Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainard Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1901 sous le titre « Zur Psychopathologie des Alltagslebens ». « Psychopathologie de la vie quotidienne » est un texte majeur de Sigmund Freud et l'un des ouvrages les plus accessibles de la première psychanalyse. Freud y examine des incidents ordinaires oubliés d'un nom, mots substitués par erreur, faute d'écriture ou de lecture, gestes maladroits, perte d'objets, souvenirs déformés et croyances superstitieuses. Son objectif n'est pas de les traiter comme des symptômes médicaux graves, mais de contester l'idée qu'ils seraient de simples accidents dépourvus de sens, à partir d'exemples personnels, littéraires et cliniques. Il défend l'hypothèse d'un déterminisme psychique, une intention inconsciente peut interférer avec une intention consciente et produire une méprise. Le livre prolonge les recherches ouvertes par l'interprétation du rêve en déplaçant l'étude de l'inconscient vers les situations les plus banales. Il a durablement installé, dans le langage courant comme dans la culture, l'idée que les petits ratés peuvent être interprétés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le déterminisme psychique contre la croyance au hasard. La thèse organisatrice de l'ouvrage est que les incidents de la vie mentale possèdent des causes, même lorsqu'elles ne sont pas immédiatement accessibles à la conscience. Freud s'oppose ainsi à une distinction commode entre les actes jugés importants, auxquels on cherche une motivation, et les petites erreurs attribuées à la distraction, à la fatigue ou au hasard. Il ne nie pas que les conditions corporelles, l'attention fluctuante ou les associations entre sons puissent favoriser une erreur. Mais il estime que ces facteurs n'expliquent pas pourquoi telle erreur précise apparaît à tel moment, avec tel mot ou tel objet. Selon lui, une tendance inconsciente intervient dans la réalisation de l'acte et infléchit l'intention déclarée. Cette position donne une portée théorique considérable aux détails quotidiens, ils deviennent des compromis entre ce que le sujet souhaite faire consciemment et ce qu'il cherche, sans le savoir, à éviter, exprimer ou accomplir. L'enjeu est moins de prouver que chaque maladresse cache un secret spectaculaire que d'affirmer la continuité du fonctionnement psychique. Rêves, symptômes et erreurs ordinaires relèvent, pour Freud, d'une même logique de formation indirecte. Cette généralisation fonde l'ambition de la psychanalyse, étudier l'inconscient non seulement dans la maladie, mais aussi dans la normalité apparente. Deuxièmement, l'oubli de noms propres comme modèle d'une mémoire conflictuelle, Freud accorde une place fondatrice à l'oubli des noms propres. L'expérience est familière, une personne connaît un nom, cherche à le retrouver, voit surgir des noms voisins ou des fragments sonores, mais demeure momentanément incapable d'accéder au nom voulu. Pour Freud, ce phénomène montre que l'oubli n'est pas toujours un effacement passif. Les substituts qui viennent à l'esprit peuvent former une chaîne d'associations conduisant vers une pensée, un affect ou un souvenir écarté. Le nom manquant se trouve alors pris dans un réseau qui dépasse sa simple fonction de désignation. Cette analyse illustre une méthode plutôt que de s'arrêter à la défaillance, il faut observer les éléments qui l'entourent, les associations spontanées et le contexte émotionnel. L'oubli devient intelligible comme résultat d'une interférence entre une intention de remémoration et une force de résistance. Cette idée a eu une influence durable car elle transforme une expérience universelle en problème d'interprétation. Elle doit toutefois être lue avec prudence, l'ouvrage propose une théorie psychanalytique du sens possible de certains oublis, non une explication validée de toutes les difficultés de mémoire. L'intérêt du chapitre réside dans cette attention au détour de la pensée et aux traces laissées par ce qui ne peut être formulé directement. Troisièmement, lapsus de parole et d'écriture quand une intention concurrente dévie le langage. Les méprises de parole et d'écriture constituent l'exemple le plus célèbre de la démonstration freudienne. Dire un mot à la place d'un autre, inverser une formulation, écrire une substitution involontaire ou lire autrement qu'il n'est écrit sont, selon Freud, des productions mixtes. L'acte conscient vise un énoncé déterminé, mais une intention concurrente, souvent refoulée ou peu assumable, modifie son exécution. Le lapsus n'est donc pas conçu comme un message parfaitement transparent qu'il suffirait de décoder mécaniquement. Il résulte d'une rencontre entre la phrase attendue, les associations verbales disponibles et une tendance psychique qui trouve une voie indirecte. Cette logique explique pourquoi le phénomène peut être comique, embarrassant ou révélateur sans fournir à lui seul une certitude sur les désirs d'une personne. Freud rapproche le lapsus oral et le lapsus écrit, car tous deux manifestent une déviation de l'intention dans l'usage du langage. L'analyse freudienne donne ainsi une valeur nouvelle aux erreurs de formulation, elles peuvent être examinées comme des compromis, plutôt que disqualifiées comme du bruit mental. Les recherches contemporaines en psychologie cognitive expliquent aussi les erreurs verbales par l'attention, la planification du langage et la similarité phonétique. Lire Freud aujourd'hui suppose donc de distinguer la fécondité interprétative de sa thèse et son statut scientifique discuté. Quatrièmement, acte manqué et geste maladroit, une extension de l'inconscient à l'action, l'ouvrage ne limite pas la manifestation de l'inconscient aux mots. Freud étudie également les gestes manqués, les maladresses, les pertes, les erreurs d'exécution et certains actes apparemment accidentels. Cette extension est décisive si une intention inconsciente peut altérer le discours, elle peut aussi intervenir dans le comportement. Oublier d'emporter un objet. Égarer une lettre, accomplir imparfaitement une tâche ou commettre une bévue peut alors être interprété comme un acte où deux volontés entrent en conflit. La personne veut consciemment réaliser une action tout en étant, à un autre niveau, réticente à son égard ou attirée par son contraire. Freud décrit ces occurrences comme des actes de compromis et non comme des décisions pleinement volontaires. Sa perspective rend compte de l'ambivalence on peut être attaché à un projet tout en lui opposant une résistance. Elle donne aussi au terme « acte manqué » son sens paradoxal. L'acte échoue au regard du but conscient, mais peut réussir à satisfaire indirectement une tendance écartée. Cette manière de lire le quotidien a fortement marqué la culture moderne. Elle comporte néanmoins un risque de surinterprétation si l'on transforme toute maladresse en aveu. Dans le cadre freudien, le contexte, les associations du sujet et la répétition éventuelle du phénomène sont essentielles pour éviter une lecture automatique. En dernier lieu, superstition, sentiment de hasard et continuité entre rêve et vie diurne, Freud consacre une partie de son enquête à la superstition, au pressentiment et à l'impression que certains événements fortuits portent un sens caché. Sa position est nuancée par rapport à l'image d'un défenseur du mystère, il ne cherche pas à confirmer une causalité occulte ou prophétique. Il critique au contraire l'idée qu'un hasard extérieur gouvernerait secrètement les destinées. Ce qu'il appelle déterminisme psychique concerne la manière dont le sujet produit, sélectionne et interprète des événements. Une coïncidence peut sembler chargée de sens parce qu'elle rencontre une préoccupation, un désir ou une crainte déjà actif. Cette analyse prolonge le rapprochement établi entre la vie nocturne et la vie diurne, après avoir soutenu que le rêve donne une expression déguisée à des désirs et conflits. Freud cherche dans les erreurs ordinaires des mécanismes comparables de déplacement, de substitution et de compromis. Les phénomènes quotidiens offrent ainsi une voie plus immédiatement observable vers l'inconscient que le matériau onirique. Cette continuité est l'une des originalités du livre, elle élargit la psychanalyse au-delà du cabinet et du symptôme pathologique. Elle invite aussi à interroger notre besoin de sens. Sans confondre l'interprétation psychique avec une preuve de force surnaturelle ou avec une négation des causes matérielles et cognitives. En conclusion, Psychopathologie de la vie quotidienne s'adresse aux lecteurs qui souhaitent comprendre l'origine et le vocabulaire de notions devenues usuelles, notamment lapsus, acte manqué et oubli révélateur. Il intéressera particulièrement les étudiants en psychologie, philosophie, lettres, histoire des idées et sciences humaines, ainsi que les lecteurs curieux de la manière dont la psychanalyse a modifié l'attention portée au langage et aux gestes ordinaires. Son bénéfice intellectuel principal est méthodologique. Freud apprend à ne pas considérer trop vite une erreur comme vide de sens, mais à examiner son contexte, ses associations et les conflits possibles qu'elle condense. Cette invitation à l'interprétation ne doit pas devenir un réflexe de diagnostic. Les sciences cognitives contemporaines rappellent avec raison que fatigue, mémoire, attention et mécanismes linguistiques peuvent expliquer nombre de méprises. La valeur actuelle du livre réside donc moins dans une validation expérimentale générale de chacune de ces hypothèses que dans la puissance de sa question que révèle une erreur. Lorsqu'elle surgit à un moment précis et prend une forme précise, par rapport au manuel moderne de psychologie cognitive, Freud propose une lecture centrée sur le désir, le conflit et la signification subjective. Par rapport à ses propres textes plus théoriques ou cliniques, cet ouvrage se distingue par son ancrage dans des expériences reconnaissables par tous. Il demeure une porte d'entrée essentielle mais exigeante dans la culture psychanalytique et dans les débats sur les limites de l'interprétation. Si vous souhaitez soutenir Sigmund Freud, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.